Allez, j'enlève mon masque. Alors, ce matin, j'avais envie de partager avec vous. Donc, on a terminé notre cycle sur Romains. On commencera les paraboles à partir de dimanche prochain. Et donc, aujourd'hui, on est dans l'entre-deux. Et donc, j'avais envie de revenir un petit peu dans l'Ancien Testament. Et de vous raconter une histoire. Alors, c'est une histoire que vous connaissez. Et alors, pourquoi une histoire? J'ai lu il n'y a pas très longtemps que les neurosciences, hein, les sciences qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau, vous savez qu'on a fait plein de progrès, en fait, sur la façon dont on peut regarder comment le cerveau fonctionne par de l'imagerie. Et ils ont vu quelque chose qu'on savait déjà un petit peu, que la conviction, le fait d'arriver à accepter une idée, à être convaincu par elle, on aurait pu penser que c'était quelque chose qui passait par la raison, d'accord, hein, par le fait d'expliquer un concept, et on le comprend, et on réfléchit, et on se dit, bah, tiens, oui, je suis d'accord, et à ce moment-là, on l'accepte. Et en fait, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. La façon dont on est convaincu, eh bien, ça passe essentiellement par les émotions. Ça part, donc vous savez, notre cerveau, il est construit par couches, et il faut que ça parte de la couche la plus profonde, d'accord, celle qui est vraiment en bas, celle qui gère les émotions. Et quand cette zone-là de notre cerveau finalement est mise à contribution, eh bien, les idées qui ont permis à ces émotions de se développer, eh bien, vont pouvoir remonter et être finalement acceptées. Donc, c'est des choses qu'on constate, en fait, empiriquement. Et donc, ils ont même pu voir que quand on raconte une histoire, les zones de notre cerveau qui sont sollicitées sont beaucoup plus importantes que quand on explique une idée. Quand on explique une idée, ça se passe à la surface du cerveau, au-dessus, là, dans le cortex. Mais quand on raconte une histoire, eh bien, ça fait intervenir la mémoire, ça fait intervenir nos émotions, justement. Ça fait intervenir, en fait, notre cerveau en entier est sollicité par ce qu'on a vécu avant, la façon dont on s'y identifie, comment est-ce qu'on se projette dedans, comment ça fait naître des choses qu'on a déjà vécues. Et toute cette mise en branle, en fait, eh bien, nous permet d'être convaincus et d'accepter certaines idées pour lesquelles, si on nous avait simplement expliqué le concept, eh bien, ça nous serait juste passé au-dessus. D'accord? Alors, bon, c'est bien d'avoir conscience de ça. Hein, dans notre société de médias, d'accord, ces mécaniques-là sont mises en branle, hein, par les hommes politiques en particulier, évidemment, hein, pour arriver à convaincre les gens de ce qu'ils veulent mettre en avant, eh bien, ils font ça. Et la Bible, eh bien, la Bible fait ça d'une façon, j'ai envie de dire, magistrale, en fait. Si ce livre a eu tellement d'impact, c'est parce que ça nous raconte des histoires, ça nous parle de personnes, de gens, ça nous parle du projet de Dieu, mais d'un projet qui est incarné et qui agit dans les vies des gens. Et dans ces vies-là, on peut se projeter, on peut s'y retrouver. Et alors, ce matin, mes enfants sont là, j'avais envie de raconter quelque chose qui puisse aussi leur parler. Alors, on va parler d'une histoire de famille, d'une histoire de frères, et comment est-ce que Dieu a agi à travers cette histoire-là, et comment finalement cette histoire rejaillit jusqu'à aujourd'hui. Alors ça se trouve dans le livre de la Genèse, et on va lire le chapitre 37 pour le début de l'histoire, et puis on ira à une partie de sa conclusion quelques chapitres plus loin. Alors, évidemment, ça parle d'une famille, ça parle de la famille, ça parle aussi de l'Église. Et on verra que ce qu'on dit, en fait, de ce qui se passe dans une famille, eh bien, on peut assez facilement le, l'extrapoler à l'Église qui est une autre famille. Alors, c'est une histoire qui nous parle de Jacob et de ses fils. Et juste pour donner un petit mot de contexte quand même sur Jacob. Alors, la plupart d'entre nous les connaissent. Quand j'ai dit qu'on allait parler de frère, Timothée m'a dit « Ah mais oui, c'est l'histoire de celui qu'on a vendu comme esclave. » Alors j'ai dit « Bah oui, c'est cette histoire-là. » Donc ils en ont entendu parler à l'école du dimanche. Ils ont pu... Bon, donc c'est une histoire qu'on connaît. Mais donc Jacob, donc c'est les fils de Jacob. Donc Jacob, hein, donc fils d'Isaac, une histoire familiale compliquée. Et juste pour dire, voilà, donc Jacob a eu 12 fils, une fille. Alors une fille qui est nommée, en fait, il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est comme ça. C'était donc les fils sont comptés, les filles, c'est pas sûr. 12 fils, une fille, deux femmes, deux concubines. D'accord, ça fait beaucoup. Et on voilà, si on voulait étudier la vie de Jacob, on se rendrait compte bon, qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire hein, de la façon dont sa vie s'est déroulée. Donc deux femmes, deux concubines, mais il en a aimé qu'une seule. Vraiment aimé, d'accord ? Il a vraiment aimé juste une de ses femmes, Rachel. D'accord ? Donc déjà, on voit que c'est un contexte qui est un peu compliqué et probablement que, et on va voir finalement que ça aussi, ça, évidemment, ça rejaillit sur le reste de sa famille. Donc on commence au moment où donc tous les fils sont nés. Le dernier est né, Benjamin, à sa naissance. Donc Rachel, la femme qu'il aimait, est morte. Donc il se retrouve à avoir, donc à être avec ses 12 fils. Donc Léa, sa femme, et ses deux concubines. Et le texte nous dit, donc Genèse chapitre 37, Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Et voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, donc le fils de Rachel, le premier fils de Rachel, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son frère, les deux concubines. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Et Israël, donc c'est l'autre nom de Jacob, aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai fait encore un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il raconta également ce frère à son père qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître leurs troupeaux, les troupeaux de leur père, dans la région de Sichem. C'est à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Israël dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. » Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et si tout se passe bien pour les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra, alors qu'il errait dans la campagne, il lui demanda « Que cherches-tu » « Je cherche mes frères, lui dit-il, peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?»« Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, je les ai entendus dire, allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. » C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben, c'est le fils aîné, D'accord ? C'est le fils de Léa, le fils aîné. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant de loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas, quatrième fils de Léa, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir, il alla trouver ses frères et leur dit « Le garçon n'y est plus, que vais-je faire maintenant ?» Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang de bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria « La tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire de Pharaon, chef de la garde royale. Donc je m'arrête là donc pour cette première partie. Alors évidemment, c'est une histoire qui est terrible. Hein. C'est une histoire, on le voit, de jalousie, d'amour aussi, une histoire de haine, une histoire aussi de force, de caractère, et puis aussi de faiblesse. Et on va regarder en fait les différents personnages qui interviennent dans cette histoire, et puis essayer de rapidement de voir un peu où ils en sont et pourquoi ils agissent comme ça. Alors la première personne peut-être qu'on peut étudier, c'est celle de Jacob. Et donc si je vous demande, est-ce que vous pensez que Jacob est un bon père, probablement que vous allez me dire non, d'accord, parce que ok, il fait des préférences entre ses fils. Et pour nous, à notre époque, c'est une idée qu'on sait être mauvaise, une mauvaise façon de se comporter. Et en y réfléchissant un peu, je me disais, oui, pour nous, ce qui nous choque là-dedans, c'est la rupture d'égalité. Il n'est pas égal avec ses enfants. Bon, pour nous, hein, ok, liberté, égalité, fraternité, dans nos têtes, C'est une façon qu'on a de réfléchir. Je ne suis pas certain que cette idée d'égalité soit aussi forte à cette époque-là. Je pense que c'est une construction qui probablement vient après. Et pour cette époque-là, il n'y a pas vraiment d'égalité entre les enfants. Hein. Typiquement, le fils aîné est placé au-dessus. Il reçoit une double part d'héritage. Et manifestement, tout le monde trouvait ça normal. Mais ici, Joseph... c'est pas le fils aîné, c'est pas le dernier aîné, mais c'est un des derniers. Et le fait qu'il soit mis avant les autres, c'est effectivement le septième, qu'il soit mis avant les autres, c'est quelque chose que ses frères n'acceptent pas. Et alors effectivement, donc on peut dire que Jacob est injuste par rapport à sa culture. C'est pas comme ça qu'il aurait dû faire. Donc il est injuste, et ce texte nous dit il a eu cet enfant dans sa vieillesse. En fait, il en a eu d'autres après, hein. Mais celui-là, c'est le fils de Rachel, la femme qu'il a aimée, et c'est celui-là qui va choisir. Et on voit bien que cette relation à Joseph, elle n'est pas complètement saine. Quand on voit la fin de ce chapitre, quand il apprend quand il croit que Joseph est mort, le texte nous dit, il va être, ok, triste, d'accord ? Il va commencer un deuil, mais ce deuil, il ne va jamais l'arrêter. Il nous dit, je mourrai dans le deuil. On voit bien que, alors je suis pas psychanalyste, hein, mais on voit bien quand même qu'il y a une espèce d'identification à cet enfant. D'accord ? Sa vie, c'est la sienne. Si cet enfant est mort, eh bien, lui aussi, il est mort. Donc, ça, on voit que cette espèce de névrose, d'accord ? Tout ce qu'il a, toutes les blessures qu'il a reçues et qu'il va reporter sur cet enfant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est quand même malsain dans cette relation. Et c'est clairement Jacob qui est à la source du conflit qui va opposer ses enfants. C'est sa faute à lui. On voit bien que c'est parce que lui agit de cette façon-là que ses enfants vont ensuite développer ce conflit. C'est sa faute et pourtant c'est pas lui qui supporte directement les conséquences de ça. Parce que ses enfants l'aiment. On le verra après, mais ses enfants l'aiment. En fait, ils cherchent à avoir son amour. Donc c'est Jacob qui se comporte mal, mais c'est ses enfants qui en portent les conséquences. La deuxième personne qui intervient, c'est Joseph. Alors Joseph, ok, Joseph, c'est le chouchou. Et Joseph, il est bien dans son rôle de chouchou. Ça lui convient bien, en fait. Et il en joue. Il utilise ce statut que lui a donné son père. Et le texte nous montre il rapporte. C'est un petit rapporteur qui vient dire, voilà, mes frères, ils ont fait ci, ils ont dit ça, etc. Bon. Ok. Son père lui donne une tunique. Alors le texte, bon, c'est difficile de savoir ce que ça veut dire exactement. Ici, c'est traduit par splendide. Ok, une tunique, voilà, qui le distingue de ses frères. Et Jacob, et Joseph, il la porte, sa tunique. D'accord ? Pour bien montrer combien il est aimé par son père. Joseph reçoit des rêves. Alors bien sûr, nous qui lisons ce texte, on comprend que les rêves, ces rêves-là, viennent de Dieu. Ce sont des rêves qui parlent de ce qui va se passer. C'est Dieu qui lui donne ça. D'accord ? Joseph les reçoit. Il aurait pu les garder pour lui, ces rêves. Mais il choisit de les raconter. Il les raconte à ses frères, il les raconte à son père. Probablement qu'il doit jouir de cette façon de se mettre au-dessus. Même si c'est pas, il n'a pas inventé les rêves. Mais voilà, il en profite. Et probablement qu'il ne mesure pas. Il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait. Il a 17 ans. Bon, à 17 ans, les garçons, pas forcément. Ils ont peut-être. Voilà, il a eu du mal à se projeter dans ce que ça faisait à ses frères. Cette haine dont le texte nous parle, qui grandit. Trois fois, hein. Il le déteste encore plus, et encore plus. Et je pense que Joseph ne mesure pas cette animosité qu'il est en train de, qui se porte sur lui, alors qu'une fois encore, c'est pas lui, c'est pas sa faute. Alors d'accord, il profite de son statut, mais c'est pas lui qui l'a choisi. C'est pas sa faute à lui, finalement, s'il est le chouchou. C'est pas sa faute à lui s'il reçoit des rêves. Et pourtant, c'est sur lui que la haine va se construire. Une troisième personne dans cette histoire, Ruben. Ruben, le fils aîné de Jacob, celui qui, normalement, devrait être le chef. Quelque part, celui qui a une autorité sur ses frères. Alors Ruben, un texte précédent nous montre qu'il est en conflit avec son père. Le texte nous dit que Ruben a couché avec une des concubines de son père et que son père l'a appris. Donc Ruben est dans une position de... Alors, le texte ne nous dit pas exactement mais comment il est à ce moment-là, mais on voit bien que Ruben ne va pas être écouté par ses frères. Je reconnais que ce Ruben, c'est celui avec lequel je me sens quelque part le plus proche, en fait. Alors peut-être parce que je suis un fils aîné, et je vois Ruben dans cette situation-là échouer complètement, parce que Ruben, on le voit, il a de bonnes intentions, d'accord. Dans toute cette histoire, celui qui finalement peut-être a le cœur le plus tendre, celui qui va manifester de la compassion, c'est Ruben. C'est le seul dans cette histoire à avoir un petit peu à vouloir faire quelque chose de bien. Il va vouloir faire quelque chose de bien, il va essayer de détourner ses frères de leur projet meurtrier, il pense pouvoir délivrer Joseph, mais il échoue. Il échoue, ses frères vont pas l'écouter, et finalement ce qu'il avait prévu va être complètement ignoré. Et je termine avec Ruben sur le destin finalement qu'il aura ensuite, d'accord, quand Jacob va bénir ses enfants, d'accord, à la façon des patriarches. Il va prendre ses enfants un par un et donner une parole de bénédiction et de prophétie. Alors de bénédiction, en tout cas, voilà, plus de prophétie. Et Ruben, finalement, va être mis de côté dans cette prophétie. Jacob va lui dire, voilà, tu étais le fils aîné, celui qui était promis à être le leader de tes frères. Et à cause de ce que tu as fait, eh bien, tu seras écarté. Et de fait, la tribu de Ruben, d'accord, eh bien, c'est celle qui va rester avant le Jourdain. Elle aura le territoire qui lui sera promis, donc bien, bien après ça, hein, 400 ans, plus de 400 ans après cet épisode-là, quand Israël va rentrer, quand le peuple va rentrer en Canaan, hein, pour en prendre possession, Ruben lui va rester avant le Jourdain. Et sa tribu, finalement, va disparaître. Assez rapidement, la tribu de Ruben disparaît. Aucun prophète n'est sorti de cette tribu, aucun juge, aucun roi. Et la tribu n'est plus citée, en fait, assez rapidement dans l'histoire d'Israël. Sa tribu disparaît. Je trouve ça dur, en fait. Celui qui finalement a les meilleurs sentiments, les meilleures intentions, eh bien, c'est pas ça qui va être retenu. Ces bonnes intentions finalement n'aboutiront à rien et ça lui sera pas porté à crédit finalement, ces bonnes intentions, parce qu'il a pas réussi, il a été, je vais le dire comme ça, mais il a été faible. Il a été faible faible dans sa chair, mais faible aussi moralement. Il n'a pas su se positionner face à ses frères suffisamment fort. Et le quatrième frère, donc la quatrième personne qui intervient et qui est aussi le quatrième fils, c'est Judas. Alors Judas, quatrième fils de Léa, et on voit ici que eh bien, c'est lui qui va être qui va conduire. C'est lui qui va être celui dont la parole va être mise en œuvre. Et on le voit ici quand même. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez. Donc, effectivement, il refuse de verser le sang. Mais on voit bien que sa justification pour ça, est vraiment froide. On le sent, voilà. Quand je lis ça, moi, je le sens vraiment froid et calculateur. Vous voyez ? Il dit, ne portons pas, ne nous mettons pas une condamnation sur le dos en versant le sang de notre frère. Plutôt, vendons-le. Vendons-le à ces Ismaélites là qui sont en train de passer. Ça, bon, on en tire un avantage et on ne porte pas de condamnation trop lourde. Donc voilà, Judas va être vraiment, il renonce pas à sa haine. Hein. Lui, il assume cette haine qu'il a pour son frère, d'accord, et il va s'en servir et en faire le meilleur parti. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand même quelqu'un de dur. Alors, c'est une époque qui est dure. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a les histoires qui sont racontées sont violentes et pleines de voilà, pleines de sang et de souffrance. Bon, et Judas est voilà et s'inscrit bien dans cette optique-là. Alors. Ok, donc là on a parlé de, on a vu donc les différentes personnes qui interviennent dans cette famille, et pour moi ça nous pose la question de effectivement comment est-ce que nous réagissons face à une injustice. On le voit, les frères là face à une injustice se sont rassemblés et ont développé une haine face à celui qu'ils voyaient comme une menace pour leur statut, une menace peut-être pour leur héritage. Donc ils ont construit une haine face à cette injustice qu'ils percevaient comme ça. Je veux juste aussi faire remarquer la façon dont ils parlent dans ce passage-là. Ils vont utiliser plusieurs fois, le nous pour construire leur projet de meurtre, leur projet pour se débarrasser de Joseph, le mensonge. Si on regarde dans ces versets, ils disent tuons notre frère. Ils complotent, ils se mettent d'accord entre eux, tuons notre frère. D'accord ? Ensuite, c'est Judas qui va dire non, ne portons pas le sang, vendons-le. Et ensuite, finalement, quand ils vont aller mentir à leur père, ils vont dire, voilà, nous avons trouvé une tunique pleine de sang. Donc ce groupe qu'ils ont formé, eh bien ce nous, on le voit, c'est un nous qui les oppose, eux, avec Joseph, avec leur père. C'est un nous qui finalement, alors il y a des nous, on va dire, il y a des nous inclusifs, des nous qui rassemblent et qui portent en avant. Là, c'est un nous qui sépare. C'est un nous qui permet finalement de porter une culpabilité à plusieurs et qui permet de distinguer voilà, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et les deux sont en guerre. Ok. Donc je continue. Et on va maintenant passer à. Alors, on va aller plus loin au chapitre 44. Alors, vous connaissez le. Alors, bon, je résume en fait ce qui se passe entre ces deux passages. Donc, Joseph est vendu, d'accord. Donc, il a été vendu aux Ismaélites, aux Madianites, qui l'ont amené jusqu'en Égypte, qui l'ont vendu à Potiphar. Ok. Donc, Joseph va être esclave de Potiphar. Il va son statut va grandir en fait dans cette maison. Il va être donc courtisé par la femme de Potiphar, rejeter ses avances, accusé de l'avoir agressé, envoyé en prison. Il va passer plusieurs années en prison et des dignitaires de la cour de Pharaon vont se retrouver dans cette même prison. Joseph va interpréter leurs rêves et finalement être appelé à la cour de Pharaon. Pour interpréter un rêve de Pharaon, il va réussir à comprendre le sens de ce rêve être, voilà, devenir serviteur de Pharaon et monter petit à petit dans la hiérarchie de l'administration de Pharaon pour finalement devenir le chef, le chef de l'administration. Il va devenir un personnage très puissant dans la. Pardon ? Alors on va dire ça, premier ministre de Pharaon. Et donc évidemment, à travers tout ce chemin-là, on voit la main de Dieu hein, qui lui donne ce discernement pour comprendre cette intégrité aussi. Et voilà, donc la bénédiction de Dieu sur Joseph à travers toute sa vie, donc ça va durer quelques dizaines d'années. Et puis donc il y a une famine qui commence dans dans cette région-là, hein, en tout cas en Canaan. Et donc les enfants de Jacob, eh bien, vont aller en Égypte pour acheter du grain parce que il y a plus rien à manger chez eux. Donc ils vont y aller, ils vont rencontrer donc Joseph une première fois, qui va les reconnaître, qui va les accuser d'espionnage, qui va retenir Siméon, donc le deuxième fils de Jacob, hein, entre Ruben et Judas. Siméon va rester comme otage chez Joseph. Donc les fils vont repartir. La famine va continuer et ils vont retourner donc en Égypte, cette fois-ci avec Benjamin. Ils vont retourner donc voir Joseph. Donc Joseph va les recevoir, retrouver donc son frère. Donc les enfants ne le reconnaissent pas, hein, mais Joseph les reconnaît eux. Donc il va finalement accuser Benjamin de vol. Et on arrive donc à ce moment-là où donc les frères sont avec Benjamin devant Joseph et c'est Judas. C'est Judas donc qui va reprendre la parole. Donc je vais commencer au chapitre 44 à partir du verset 30. Et donc c'est Judas qui parle à Joseph et qui lui dit: maintenant donc, si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans ramener avec nous le jeune homme, donc Benjamin, auquel il est tellement attaché, quand il constatera son absence, il mourra. Et tes serviteurs seront responsables de l'avoir fait mourir de douleur dans son grand âge. Car moi, ton serviteur, j'ai pris la responsabilité du jeune homme devant mon père. Je lui ai dit: si je ne le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Maintenant donc, je te prie, permets à ton serviteur de rester comme esclave de mon seigneur à la place du jeune homme et qu'il reparte avec ses frères. Comment pourrais-je retourner vers mon père sans le jeune garçon ? Ah, que je ne sois pas témoin du malheur qui frapperait mon père. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria: faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit: venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voici 2 ans que la famine sévit dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie, par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et je m'arrête là. Donc là, il y a deux personnes qui parlent, d'accord ? Judas et Joseph. Et c'est intéressant de voir comment Judas parle dans ce passage-là. D'accord ? Donc, alors il utilise des formules de politesse très... Voilà, il répète serviteur, serviteur, seigneur. Bon. Donc, en gros, il dit, voilà, je me suis engagé auprès de mon père à ramener Benjamin. Et je préfère devenir ton esclave plutôt que de te laisser Benjamin et de rentrer sans lui, parce que ça tuerait mon père. D'accord ? C'est ça qu'il dit, Judas. Et autant la première fois, il disait « nous ». nous allons le vendre, nous allons dire à mon père, etc. Là, cette fois-ci, il dit je me suis engagé devant mon père pour protéger Benjamin. Je préfère rester comme esclave à sa place. Cette histoire de frère, hein, ça fait penser à Caïn et Abel. Hein, d'accord ? Même histoire de jalousie, même projet de meurtre. Bon, sauf qu'évidemment, dans Caïn et Abel, Caïn tue Abel. Et vous vous rappelez peut-être cette façon que Caïn a de répondre à Dieu, quand Dieu lui dit « Mais où est ton frère ?» Et Caïn lui dit « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Cette phrase, moi, ça m'a toujours frappé. Et ici, eh ben, Judas, il dit « Oui, je suis le gardien de mon frère. » Pourtant, Benjamin, c'est le nouveau chouchou. C'est le nouveau chouchou, hein. C'est lui que son père dit « Non, non, vous, allez-y, mais laissez-moi Benjamin, parce que vraiment, je ne veux pas le risquer, lui. Vous, bon, mais pas lui. » C'est injuste aussi. Et pourtant, cette fois-ci, Judas ne va pas dire « Ah oui, bah, c'est encore le chouchou, ça aurait pu être une occasion de se débarrasser de lui aussi. Hein. » Dire bah, « Vas-y, garde-le, et puis nous, on repart. » Donc cette fois-ci, Judas dit non. Je me suis engagé, je prends sa place. Il va faire passer le respect à son père. Alors je ne sais pas si c'est de l'amour pour Benjamin. Le texte ne nous le dit pas. Mais il va faire passer le respect, en tout cas c'est ça qu'il avance. Hein. Le respect par rapport à son père, l'amour qu'il a pour son père, avant sa propre vie. D'accord ? C'est ça qu'il va faire. Donc je vous ai parlé du destin de Ruben et de sa tribu. On peut parler maintenant du destin de Judas et de sa tribu. Judas, eh ben, ça va être celui qui va être béni devant tous ses frères. C'est lui qui va être, dont le territoire va subsister. D'accord ? Il va avoir cette partie du territoire donnée à Israël. Et ben c'est cette partie-là qui va rester. Quand les Romains, à l'époque des Romains, c'est la Judée. La Judée, hein, c'est le territoire de Juda. Donc 2000 ans après, 1500 ans après, 2000 ans, c'est son territoire à lui, sa tribu à lui, qui est toujours là. Et Juda, ça va être de lui que va être tiré le roi David et le Christ. C'est lui. Alors, c'est pas très juste hein, quand même tout ça. Hein. Parce que Ruben, qui avait un bon cœur, lui, il a été effacé. Et Judas, là, pourtant était dur, pourtant était froid, mais lui... Alors, est-ce que... Je sais pas, le texte nous dit pas pourquoi, hein. Pourquoi c'est lui qui a été choisi devant les autres ? Mais ici, on voit que Judas, il a été capable de dire « je ». Je choisis de mettre ma vie pour sauver mon frère. Sans faire référence à ce que font ses frères, au groupe, au machin, non. Voilà, je suis prêt à prendre la place. Et ensuite, le discours de Joseph. Joseph, à ce moment-là de l'histoire, il aurait pu décider de se venger. Il avait le pouvoir pour le faire. C'était le moment. Il aurait pu dire, bon ben voilà, hein, vous m'avez vendu comme un esclave. Maintenant, c'est vous qui êtes dans mon pouvoir. Eh bien, vous serez des esclaves. Vous serez mes esclaves. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il aurait pu les tuer. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Et Joseph, à ce moment-là, choisit de pardonner. Ses frères n'ont pas demandé pardon. Hein. Vous avez vu, hein ? Il n'y a pas eu de pardon qui a été demandé. Là. Ils n'ont pas demandé pardon. Eux, ils ont juste très peur. Bon. Mais Joseph, lui, décide à ce moment-là de pardonner. Et il pardonne pour une raison très particulière, d'accord ? Il pardonne parce que Joseph voit que dans tout ce qui s'est passé, le plan de Dieu s'est réalisé. Joseph, lui, il voit la main de Dieu au-delà de la, à travers la méchanceté de ses frères, à travers tout ce qui lui est arrivé, il voit le plan de Dieu. Il voit, mais tout ce qui m'est arrivé, c'est pour qu'aujourd'hui, je sois là pour pouvoir sauver mes frères et ma famille. Je vois que Dieu a conduit les choses, et il a vécu des choses difficiles, hein. Difficiles, esclaves, prisonniers. Bon. Tout ça, Dieu était là pour le conduire du début à la fin. Et Joseph voit une partie, hein. Joseph, il voit qu'une partie, hein. Il voit la partie famine et le salut qui est apporté à ce moment-là. D'accord ? Il voit pas les 12 tribus d'Israël, il voit pas Canaan, il voit pas David, il voit pas le Christ. D'accord ? Lui, il voit juste ce qui est devant lui, c'est ça qu'il voit. Et il voit la main de Dieu. Et il dit, bon ben voilà, parce que j'ai vu Dieu agir à travers tout ça, alors je ne retiens pas contre vous ce que vous avez fait contre moi. Et j'ai envie de dire que ça, c'est quand même un acte fondateur dans l'histoire de la famille, dans l'histoire d'Israël. Parce que nous, on voit ça, évidemment, avec des milliers d'années de recul. On voit ça écrit dans la Bible avec ce regard-là. On pourrait se demander, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que tu es passé par là? Il y avait peut-être d'autres façons, quand même, Pourquoi? Parce qu'on sait bien ce qui se passe derrière. D'accord? Donc, OK, la famille, donc les 12 enfants de Jacob en Égypte, la prospérité, le peuple qui se multiplie, mais le peuple qui devient esclave aussi. D'accord? Au bout de quelques centaines d'années, Pharaon décide de réduire le peuple d'Israël en esclavage. Donc, il va falloir Moïse, il va falloir la traversée du désert, il va falloir tout ça pour que finalement le peuple atteigne la promesse de la terre promise. D'accord? Donc il y a tout ce chemin. S'il fallait envoyer les enfants en Égypte, il n'y avait pas forcément... Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de passer par toute cette histoire de Joseph? Dieu aurait pu susciter quelqu'un de favorable à Israël au moment où ils arrivent. Hein. C'était pas... Vous voyez? Il y avait peut-être d'autres moyens d'envoyer les 12 en Égypte pour qu'ils y prospèrent. Dieu a choisi ce chemin-là. Peut-être... Alors là, je spécule, mais... On voit quand même quel impact ça a pu avoir sur les frères. D'accord ? Une trahison. Cette trahison, ce projet de mort, cette trahison, ce secret porté pendant des dizaines d'années, finalement, ce projet meurtrier mis au jour, et puis le pardon. Et puis le pardon. Le pardon, parce que vous faites partie du projet de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur une famille, ce chemin pris-là? D'accord? Je me dis que après cet épisode-là, la notion des 12 tribus, parce que les 12 tribus commencent à ce moment-là. Hein, là, c'est que 12 frères, pour le moment. Ben, les 12 tribus commencent à ce moment-là. Commencent au moment où le frère qui a le pouvoir les sauve et les pardonne et les rassemble parce que Dieu a planifié tout ça. Alors, je vais m'arrêter là. Et donc, pour conclure, on voit que dans cette histoire, face à une injustice, qui était perçu comme une injustice.
D'accord.
Ben, y a un groupe qui s'est formé, un groupe qui s'est réuni dans la haine, qui a grandi comme ça, petit à petit. Un groupe qui s'est formé autour de cette haine. Et on voit que pour sortir de ce chemin-là, eh ben, les bonnes intentions de Ruben n'ont pas suffi. Les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Paul a parlé en introduction de l'idée que la foi et l'action vont ensemble. Vous voyez, on parle souvent de la foi qui a été portée au crédit des patriarches. Eh bien, les bonnes intentions de Ruben n'ont pas été portées à son crédit. Parce que les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Par contre, l'action de Judas, on pourrait dire sa foi, d'accord ? Sa foi, sa capacité à dire « je », à un moment donné, à dire « moi, non ». Moi, je prends, à ce moment-là, je prends position. Et je décide, pour moi, de m'engager pour mon frère, par amour pour mon père. Mais je m'engage. Et finalement, la conséquence, enfin, ou plutôt la donc, enfin voilà, donc deux choses ont permis finalement de sortir de cet environnement de haine et de mort, en fait. Donc une décision finalement personnelle, et puis la compréhension du plan de Dieu, le fait de se rendre compte que nous faisons partie. Donc là, on revient à un « nous », hein, d'ailleurs. D'accord ? Nous faisons partie du projet de Dieu. Alors, ça a été révélé à Joseph. Une partie, hein. Parfois, ce projet de Dieu, on le comprend pas. D'accord ? Dans les choix que nous avons à faire pour nos vies, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, on voit pas forcément, hein, le plan de Dieu. Il nous est pas forcément révélé. Pourtant, on sait que Dieu a des projets pour nous, pour chacun de nous individuellement, qu'il a des projets aussi pour l'Église, pour le groupe que nous formons. On ne les connaît pas, mais on sait qu'il en a. On sait qu'on fait partie de cette histoire, de ce plan de Dieu qui se déroule, d'accord, depuis l'époque de Jacob et de ses fils jusqu'à aujourd'hui. Et que nous faisons partie de ça. Donc, et ça doit, je pense, éclairer nos relations, nous rendre capables d'aller au-delà des offenses, au-delà des nous contre eux, pour justement entrer dans un projet qui va au-delà de nous. Voilà. Je m'arrête là, je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, on va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont marché avec toi, qui ont lutté avec toi, qui ont souffert avec toi, parfois contre toi. Et Seigneur, toutes ces histoires, eh bien, nous montrent combien tu es puissant, combien tu pars de loin et tu vas loin, combien tu es le début et la fin. Et Seigneur, nos vies font partie de ce plan que tu as. Seigneur, on voit que parfois, c'est vrai, les actions des uns et des autres ont des conséquences sur leur vie, et nous savons que pour nous aussi, les choix que nous faisons, eh bien, nous devons souvent en porter les conséquences, bonnes ou mauvaises. Mais Seigneur, au-delà de tout ça, nous voyons aussi ta main. Nous voyons ta main qui nous prépare, voilà, qui a un chemin pour nous. qui a une bénédiction pour nous, qui a une espérance aussi pour nous. Et Seigneur, nous voulons entrer dans ton projet, marcher sur ce chemin que tu as pour nous. Et Seigneur, nous te prions pour que tu éclaires nos cœurs, pour que tu nous donnes ce courage de prendre position pour toi, dans nos circonstances. Nous te prions pour que nous puissions aussi nous approprier ton projet de salut, Seigneur, pour les hommes. Aide-nous à être tes enfants, à être tes témoins. Seigneur, bénis chacun d'entre nous ce matin. Bénis aussi notre Église, notre groupe. Qu'on puisse être un nous qui te rende gloire. Je t'ai prié dans le nom de Christ. Amen.